Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Gérard Davet.
Bonjour.
Grand reporter au Monde, vous avez été le premier avec Fabrice Lhomme à révéler en mars 2014 ces écoutes téléphoniques qui conduisent Nicolas Sarkozy pour la première fois devant un tribunal aujourd'hui. Il y a donc eu 6 ans d'enquête et d'instruction avant le procès, c'est très long, la faute à qui ?
La faute en grande partie à Nicolas Sarkozy et à ses défenseurs qui ont multiplié, comme la loi le permet, les recours et qui ont donc bloqué l'instruction pendant presque 2 ans. Donc du coup, c'est en grande partie leur faute. Ils ont utilisé les procédés dilatoires et par ailleurs, il a fallu nombre de vérifications à Monaco et ailleurs pour réussir à établir un dossier qui tient à peu près la route.
Ça correspondait aussi au calendrier politique de Nicolas Sarkozy qui était, on s'en souvient, engagé dans la primaire de 2016 à droite. Hein.
Tout à fait. Mais les juges n'en ont pas tenu vraiment... Ils n'ont pas fait attention, quoi. Le calendrier politique de Nicolas Sarkozy peut leur chaud, en fait. Hein.
Nicolas Sarkozy qui a donc tout fait pour retarder l'échéance. Et pourtant, vous écrivez dans un papier qui paraît ce matin dans Le Monde qu'il a hâte d'en découdre, qu'il est galvanisé par la perspective de pouvoir s'expliquer dans une enceinte judiciaire.
Oui, concrètement, il connaît par cœur le dossier, il l'a parfaitement débriefé avec son avocate Jacqueline Lafont. Et par ailleurs, il dispose d'arguments, enfin en tout cas il croit disposer d'arguments qui peuvent lui permettre de porter la contradiction dans l'audience. Il va effectivement faire un choix à l'audience, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce qu'il a derrière lui tout un background d'avocat, il n'a jamais plaidé réellement mais il sait ce que c'est. Et par ailleurs, il connaît le dossier par cœur. Et enfin, il a son talent oratoire politique. Donc ça va donner virtuellement et possiblement un show.
Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue, ce ne sera pas un procès et un jugement serein.
Non, c'est tout à fait impossible. Pourquoi ? Parce que, premièrement, l'affaire n'est pas excessivement simple, vous en conviendrez. Donc du coup, il va falloir réussir à faire comprendre, donc ce sont des juges, donc c'est plus simple, mais à faire comprendre que la corruption ne suppose pas que l'acte ait été commis. Il suffit qu'il y ait eu une intention. Donc déjà, c'est important de le dire.
Oui.
C'est important. Et deuxièmement, il faut bien comprendre que tout ce qui touche Nicolas Sarkozy débouche sur de l'hystérie médiatique, de l'hystérie politique, et de l'hystérie, il faut bien le dire, parfois judiciaire. Donc du coup, ça ne peut pas être serein.
Le dossier n'est pas simple, mais il y a des méthodes qui sont, comment dire, accablantes, moralement accablantes. Utiliser des téléphones clandestins pour échapper à la curiosité de la justice, ce que les juges attribuent, disent-ils, à des délinquants chevronnés. Mais la réalité, c'est que les manigances de Nicolas Sarkozy et de son avocat n'ont abouti à rien. La Cour de cassation n'a pas statué dans le sens qu'ils espéraient. Le haut magistrat Gilbert Azibert n'a pas eu le poste qu'il convoitait à Monaco. Comment de telles conversations peuvent entraîner d'aussi graves conséquences pénales, Gérard Davet ?
Pour une raison simple, c'est que les délits de corruption et de trafic d'influence, pour lesquels Nicolas Sarkozy est renvoyé, ne supposent pas, sont des délits un peu complexes, qui ne supposent pas que l'acte ait trouvé une résultante et que par ailleurs il y ait eu la preuve absolument effective de la récompense. Donc du coup, concrètement, il suffit qu'il y ait eu une intention de corrompre quelqu'un ou une intention de commettre un trafic d'influence, donc ça veut dire en gros utiliser son réseau, pour que ça suffise. Donc du coup, les juges peuvent parfaitement utiliser uniquement le contenu des conversations téléphoniques interceptées. Après, la deuxième question qui se pose, c'est peut-on utiliser les conversations entre un avocat et son client ? C'est un autre débat.
C'est un débat que Nicolas Sarkozy et ses défenseurs vont porter devant le tribunal à partir de cet après-midi. Mais sur le fond, que disent-ils de la teneur de ces conversations ?
Ces conversations ne peuvent pas être effacées comme ça d'un simple trait de plume. Hein. D'ailleurs, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ils ont multiplié les recours, ça a été repoussé à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ces conversations sont très claires. Elles montrent très clairement que Nicolas Sarkozy veut savoir ce qui va se passer à la Cour de cassation parce que c'est très important pour lui. Il faut bien comprendre que là, il s'agit, pour résumer, d'une question de saisie de ses agendas présidentiels. Et ces agendas montrent plein de rencontres avec plein de gens. Donc ça peut servir dans plein d'enquêtes.
Notamment le dossier Tapie, c'était le cas.
Le dossier Tapie, par exemple, et même le dossier Libyen. Donc son intérêt, c'est que la justice ne dispose pas de ces agendas. Donc il veut savoir si la Cour de cassation va annuler la saisie de ces agendas. Donc ils veulent savoir avant, et même son avocat en particulier, se disent « et si on pouvait éventuellement influencer le jugement des avocats généraux et des gens de la Cour de cassation ?» Et ça, c'est ce que montrent ces conversations de manière très claire. Si vous voulez, ce qu'on savait déjà, ce qu'on devinait déjà, ça se passe comme ça depuis toujours, depuis des temps malheureusement immémoriaux dans le domaine de la politique et de la justice, là, c'est établi clairement par ces conversations téléphoniques.
Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de... défense où il n'y a pas de réponse claire sur le fond de Nicolas Sarkozy.
La seule
réponse
de Thierry Herzog, son avocat, a été de dire je ne m'étends pas sur les conversations qui ressortent du secret entre un avocat et son client. Et Nicolas Sarkozy lui répondra lui, oui, mais rien ne s'est passé puisque je ne suis pas allé à Monaco et je n'ai pas obtenu le poste pour M. Azibert. Ce sera sa seule réponse. Je crains que ce ne soit pas suffisant pour des juges.
Nicolas Sarkozy n'a encore jamais été condamné. Il répète que son casier judiciaire est vierge, mais il est poursuivi dans deux autres dossiers. Big Malion, le financement de sa campagne de 2012, sa campagne présidentielle. Il doit comparaître en mars prochain. Et puis l'éventuel financement libyen de sa campagne de 2007. Qu'est-ce qui est le plus embarrassant et le plus lourd de menace pour l'ancien président ?
Les deux procédures à venir, c'est-à-dire les factures truquées de l'UMP, qu'on appelle aussi affaire Big Malion, et le présumé, supposé financement libyen de sa campagne présidentielle, sont des dossiers dans lesquels il y a des lourds indices contre lui. Il faut encore qu'il y en a un où il est renvoyé. Les indices, donc, sont devenus des charges. Pour les juges, c'est clair. Il y a eu un financement illicite de sa campagne présidentielle. Donc ça, c'est clair.
Et Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas être au courant du dépassement.
Ça va se jouer là-dessus aussi. Mmh. On est toujours dans le même problème. Hein, c'est qu'il n'y a aucune preuve claire et concrète que Nicolas Sarkozy a donné l'ordre de truquer les comptes de l'UMP. Donc du coup, ça va jouer sur la responsabilité personnelle. Et le deuxième dossier que vous connaissez bien, le dossier libyen, là, on est vraiment, pour le coup, dans une espèce de maelstrom judiciaire où les informations sont contredites par d'autres informations. Honnêtement, c'est compliqué d'y retrouver une vérité pour l'instant.
Dans tous ces dossiers qui visent Nicolas Sarkozy, les maillons faibles sont autour de lui, dans son entourage. Ce sont ses hommes de confiance qui ont pu, éventuellement, la justice le dira, qui ont pu se compromettre, Gérard Davet.
Oui, depuis le temps, avec mon compère et ami Fabrice Lhomme, que l'on enquête autour de Nicolas Sarkozy et du pouvoir, il y a un phénomène autour de lui d'addiction à Nicolas Sarkozy. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en clair, les gens veulent... autour de lui, que ce soit les Claude Guéant, les Gobert, les Balkany et autres, ils sont très nombreux, ils veulent complaire au président, au chef de meute. Et donc, du coup, ils vont trop loin parfois. Et parfois même, il y a une sorte d'impunité qui leur est accordée par Nicolas Sarkozy. Et donc, du coup, ça débouche sur ça. Ça débouche sur le fait que ces gens-là, qui étaient là, en fait, censés le protéger, des sortes de coupe-circuit, deviennent en fait ses boulets judiciaires.
Vous l'écrivez ce matin, les hommes court-circuit placés autour de lui pour le protéger pourraient devenir ses boulets judiciaires. Donc dans le cas, dans le dossier qui nous occupe aujourd'hui en premier lieu, Thierry Herzog, son avocat personnel,
et Gilbert Azibert,
son ami.
Oui. Dans le dossier libyen, ce sont à la fois Alexandre Djouri et Claude Guéant, et éventuellement Brice Hortefeux.
Et Thierry Gobert qui, lui, a effectivement reçu de l'argent libyen.
Mais,
enfin, ça, c'est un élément
Nicolas
du dossier.
Nicolas Sarkozy n'a pas vu depuis très longtemps, et ça, c'est vrai aussi.
On est sûr de ça ?
Oui, a priori, c'est établi par ses agendas, clairement. Hein, vraiment, pour le coup, la saisie de ses agendas est utile. Et ensuite, dernier élément qui est important dans l'affaire Big Malion, en l'occurrence, les coupes-circuits, c'était Jérôme Lavrieux et d'autres. Et à chaque fois, ces gens-là vont assumer leur tort ou leur problème devant la justice, ou alors la justice va réussir à les confondre et ça va se retourner in fine contre le patron Nicolas Sarkozy.
Dans tous ces dossiers, il manque le smoking gun, le pistolet fumant qui rattache directement le patron à d'éventuelles turpitudes qui ont été commises par son entourage.
Alors il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est un être prudent et par nature et qui donc fait très attention et sait éviter la justice. Soit il n'a rien commis comme délit. Et il y a aussi cet élément-là qu'il faut conserver en tête.
Mais il est mal entouré.
Pour le moins.
Merci Gérard Davet. Je rappelle votre livre avec Fabrice Lhomme, La haine, histoire secrète de la droite française, chez Fayard, où il y a un certain nombre, évidemment, d'éléments qu'on vient d'évoquer. Merci à vous.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis dans quelques minutes, à peine moins de 3 minutes, le 13h. D'autres informations avec Christophe Lamarre, puis La France bouge, Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.